Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je m'appelle Chloé Berthélémy, comme Louise l'a déjà dit. Un petit mot supplémentaire sur mon organisation, European Digital Rights. On est un réseau européen qui existe depuis plus de 20 ans dans toute l'Union européenne, mais aussi au-delà. On a aussi des membres au-delà des frontières de l'Union européenne, en Serbie, au Monténégro, par exemple, donc tout ce qui couvre le Conseil de l'Europe. Et du coup, on représente des organisations membres au niveau national, ici à Bruxelles. Et notre but premier, c'est d'influencer la législation européenne pour qu'elle soit protectrice des droits fondamentaux, de tous les droits fondamentaux, à l'ère du numérique. Donc on englobe tout un paquet d'enjeux liés au numérique et à l'utilisation des technologies par les États, mais aussi par les acteurs privés. On m'a demandé aujourd'hui d'intervenir pour vous contextualiser un petit peu l'utilisation des outils numériques dans le secteur non marchand. Ça peut aussi s'appliquer au secteur public. Les enjeux sont globalement les mêmes. Mais voilà, on m'a demandé de faire ce travail un petit peu de vous présenter globalement les enjeux politiques, socio-économiques qui sont liés à l'utilisation de certains outils numériques ou technologiques. Parce que, évidemment, la technologie n'est pas neutre et traduit, transcrit certaines dynamiques de pouvoir, reproduit des inégalités sociales, reproduit des inégalités économiques. Et donc, c'est très important de se poser la question de quels outils on utilise, sur quoi on se repose et qui on soutient à travers l'utilisation d'outils numériques ou pas. Donc, l'agenda de ma petite présentation, ma petite session ce matin, principalement, je vais passer beaucoup de temps à vous parler d'enjeux d'indépendance et d'autonomie dans un contexte politique qui est, comme vous le savez, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous êtes en première ligne, très incertain. Je vais vous parler un peu plus des enjeux politiques, moraux, éthiques, bon, vous choisissez le terme qui vous convient le mieux, et un peu sur l'environnement aussi, si ça vous touche. Et dernièrement, souvent on me pose des questions sur mais que fait l'Union européenne? Je vais essayer de vous apporter quelques réponses aussi de ce point de vue-là. Ça sera très large et je suis pas experte dans toutes ces matières-là, donc voilà, je vous demande un petit peu de patience avec moi et de compréhension. Avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais savoir à qui je m'adresse un petit peu dans le public. Donc je voudrais savoir par un vote à main levée, entre guillemets, un sondage à main levée, qui sont les personnes qui travaillent directement avec les publics concernés? Les formateurs, la première ligne. Si vous voulez, c'est pas mon cas, donc je ne vais pas lever la main. OK. Et qui c'est qui travaille en deuxième ligne ou plus derrière dans l'administration, dans... Grosso modo, 50-50, j'ai envie de dire. Qui utilise des outils numériques tous les jours dans le cadre de son travail? Ouais. OK. Qui utilise régulièrement, une fois tous les 2-3 jours, hebdomadairement, une fois par semaine au moins. À part ceux qui ont levé la main pour tous les jours, pardon. Parce que, évidemment, par définition, je veux dire ceux qui l'utilisent de manière plus espacée. Il y avait une paire de personnes, je crois. Vous êtes tous concernés par ce que je vais dire, c'est parfait. Je vais commencer par vous parler un petit peu de l'histoire. Refaire un retour en arrière, un récit historique. Au début, lorsque les utilisateurs, utilisatrices utilisaient des logiciels, utilisaient une technologie, ils étaient plus ou moins tous égaux, égales. Quand on achetait un logiciel, ça venait souvent sur un support physique tel qu'un CD-ROM, une disquette, au tout début des années 2000, dans les années 90, ce qui voulait dire que vous deveniez propriétaire du logiciel. Vous aviez la copie physique, et qu'est-ce que ça voulait dire? Vous pouviez prendre le CD-ROM ou la disquette, la revendre, la donner, éventuellement un peu la bidouiller, mais vous étiez vraiment maître et maîtresse du logiciel que vous utilisiez, de l'équipement technologique que vous aviez acheté. Or, dans le milieu des années 2000 et 2010, on a l'avènement d'un nouveau modèle commercial qui arrive et qui vient dominer le secteur. C'est celui du mode par abonnement. Vous n'êtes plus propriétaire du logiciel que vous avez acheté, vous en devenez juste le locataire. Et ça change énormément. puisque le fournisseur, du coup, retient un énorme degré de contrôle sur la manière dont vous pouvez utiliser ce logiciel et sur la manière dont vous pouvez aussi y avoir accès. Vous êtes un petit peu dépendant du fournisseur du logiciel que vous utilisez. Vous devez le payer soit de manière mensuelle, soit de manière annuelle, ou alors c'est gratuit, mais vous savez très bien que quand c'est gratuit,
c'est vous le produit.
Voilà, un peu plus fort, c'est vous le produit, donc vous le payez d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que ça a comme impact? Deux grands impacts, le droit à la protection des données, évidemment, puisque dans ce genre de modèle où soit vous payez un abonnement, soit pas, il y a quand même une extraction des données personnelles qui sont utilisées à des fins de commercialisation en vue de principalement de la publicité ciblée, donc pour alimenter l'industrie de la publicité ciblée et du traçage en ligne. Donc tous vos comportements sont analysés par ces grandes entreprises qui sont derrière l'avènement de ce modèle dominant. Votre comportement en ligne est complètement analysé. Ce que vous regardez, la manière dont vous bougez la souris, quels sont vos intérêts, toutes les métadonnées de votre comportement en ligne, c'est-à-dire où est-ce que vous vous localisez globalement, est-ce que vous êtes à Bruxelles ou est-ce que vous êtes plutôt dans le Brabant wallon, ça c'est des choses qui sont collectées et utilisées à des fins de marketing publicitaire. C'est une toute petite partie de ce qu'ils collectent. Il y a toute une liste comme ça de données personnelles qui sont collectées à des fins de publicité ciblée. Et ça, ça représente une énorme partie de leurs recettes annuelles à ces GAFAM, puisque leur modèle est vraiment concentré sur la surveillance. Deuxièmement, et c'est un point que je vais davantage développer encore, ça vous enferme dans ce qu'on appelle des jardins clos. J'ai pas trouvé de terme français vraiment incroyable là-dessus, mais en anglais on dit walled gardens. Ça veut dire quoi? C'est un univers cloisonné. Une fois que vous avez acheté le logiciel ou que vous êtes abonné, très difficile d'en sortir. Vous êtes vraiment attrapé et il est très difficile de bouger et de faire marcher la concurrence en disant oh, le service me convient plus, j'ai envie de bouger toutes mes données et d'utiliser un autre outil. Ça devient, la barrière de sortie devient très très élevée pour les organisations et pour les utilisateurs. Donc il y a une dépendance très toxique au fournisseur de base initial. Quand je parle de modèle de surveillance lié à l'industrie de la publicité ciblée, on pense souvent à Google. Google, c'est gratuit, vous pouvez démarrer un cloud demain, créer une adresse Gmail, c'est très simple, il n'y a rien à payer. C'est l'ennemi parfait, c'est le grand vilain de l'histoire. Mais tous les GAFAM le font. Même si ce point, cette slide, c'est vraiment pour vous encourager à penser au-delà des campagnes marketing de certains des GAFAM qui se veulent plus privacy friendly, or plus respectueux de la vie privée que les autres, type Apple ou Microsoft, qui vont dire « Ah non, nous, nos utilisateurs, ils payent un abonnement, donc on a une exploitation des données qui est un peu moins restrictive par rapport au grand méchant Google ou Amazon. » C'est pas le cas. Je vous ai montré un exemple ici. Outlook a été... Il y a eu une révision des termes et conditions de Outlook pour collecter davantage encore de données, pour les revendre ensuite au marché de la publicité ciblée en ligne. Juste un petit point. Je vous parlais des jardins clos, donc c'est vraiment un point que je vais essayer de développer davantage. Les GAFAM produisent des logiciels qui sont utiles. Il n'y a pas de doute, on ne met pas ça en question. C'est pratique, l'interface utilisateur-utilisatrice, elle est bien, elle est jolie, ça fonctionne pas. La grande arnaque du siècle, c'est que tout est incompatible. Les formats de données sont propriétaires ou fermés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en opposition à ouvert. C'est-à-dire que la manière dont les données sont écrites, structurées, les spécifications de comment on écrit la donnée, elles sont juste spécifiques à l'entreprise. L'entreprise les détermine et c'est vraiment contrôlé par ses acteurs privés. Vous n'êtes pas en mesure de définir un autre format de comment la donnée est écrite. Qu'est-ce que ça signifie aussi? Ça signifie que du coup, lorsque vous avez un format de données dans votre logiciel et que vous voulez utiliser un autre logiciel pour les lire, C'est pas possible. Vous pouvez utiliser que le logiciel qui est spécifiquement designé, construit pour lire la donnée. Les protocoles aussi. Donc, un protocole, c'est comment transmettre la donnée d'un outil à un autre ou d'un format de lecture à un autre. Ils sont aussi pensés comme incompatibles. Donc, vous ne pouvez utiliser qu'un seul outil pour lire les données et pour les transmettre qui vient du même fournisseur. Même chose avec les bases de données. Où est-ce que vous stockez vos données? En général, les bases de données sont incompatibles. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'une fois qu'on a investi, comme je le disais, dans l'outil, dans le logiciel, super difficile et coûteux d'en partir. Vous pouvez pas faire jouer la concurrence. Une fois, si vous êtes pas content, genre Microsoft change ses termes et conditions et maintenant fait encore plus d'exploitation de données qu'avant, comme je vous l'ai montré juste avant. Je suis pas content avec Microsoft, je veux aller chez un concurrent. Super difficile parce que toutes vos données ont été encodées jusqu'à présent, toute votre activité, selon un format propriétaire qui va être très difficile en fait de réutiliser et transférer chez un concurrent. Je vais ajouter à cela une dernière chose, c'est le dernier point, l'intégration verticale par les GAFAM. C'est la course à l'intégration verticale. Qu'est-ce que c'est? En gros, les entreprises cherchent à acheter ou à produire, créer, développer des activités ou des logiciels supplémentaires, donc qui n'ont pas la même fonction, et donc essayer de contrôler l'ensemble de la chaîne de production. Donc, par exemple, Google ne se limite pas simplement à vous fournir un service d'email en ligne, Gmail, il va aussi vous proposer un cloud. Ça, c'est une intégration verticale. Ce sont deux outils complémentaires. Ça vous aide à avoir vos emails, ça vous aide à avoir vos documents en ligne. C'est maîtrisé par la seule entité de pouvoir privé. Donc là, j'en ai cité quelques-uns, les clouds, les emails, les navigateurs. Donc Google Chrome, c'est le navigateur. Le matériel, même le physique, la souris, le clavier. Google fournit par exemple des pixels, des smartphones pixels. Les systèmes d'exploitation, les applications en tout genre, la calculatrice, la caméra, tout ce que vous pouvez penser, les services de paiement, les assistants personnels qui sont de plus en plus en vogue, surtout ceux qui sont nourris à l'IA, et aussi juste le contenu. Ils fournissent aussi du contenu. Un petit schéma, alors c'est vraiment pixelisé, je suis désolée, mais c'est pour vous montrer le cas d'Apple. Qui du coup a vraiment la main mise sur un ensemble assez faramineux d'applications, de contenus, de réseautage, mais aussi toutes les applications de gestion de la donnée, ou ce qu'ils appellent customer intimacy, l'intimité des utilisateurs et utilisatrices. Et donc vous pouvez voir que toutes ces applications sont maîtrisées par Apple. Et donc, il y a vraiment une intégration verticale à travers plusieurs champs d'activités en ligne qui sont dans les mains d'une seule entreprise. Je vous montre aussi Microsoft pour la comparaison et pour pas que taper sur Apple. Vous avez Microsoft Office. Tout le monde connaît Microsoft Office. Vous avez LinkedIn. Vous avez aussi du matériel, donc les Xbox, les tablettes, les Nokia. Skype, qui est différent des emails, c'est un service de vidéoconférence. Encore une fois, on a cette intégration qui est verticale. Et de plus en plus, ces entreprises montent l'échelle, entre guillemets, jusqu'à atteindre vraiment l'infrastructure fondamentale de la technologie, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus Meta ou même Google investir dans les câbles sous-marins pour transmettre les données. Les data centers, évidemment, sont déjà à la main de Microsoft, Google, etc. Ils ont déjà leur propre data center. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Cette situation d'oligopole, de facto, nous met dans une situation de profonde vulnérabilité. Vu qu'on est dépendant sur toute la chaîne de production, pour toutes les activités en ligne qu'on fait avec une seule entité de pouvoir qui, en plus, est privée, donc qui n'a pas une gouvernance transparente nécessairement, qui peut pas être remis en cause par un pouvoir démocratique, parlementaire, tout ce que vous voulez. cette situation de position, cette position de vulnérabilité, pendant très longtemps, elle était abstraite. C'était bien, les années 2010, Internet florissait, on avait plein de nouveaux logiciels, plein de nouvelles activités, c'était super. Et on se rendait pas compte de notre position de vulnérabilité dans ce contexte. Or, le changement d'environnement politique aux États-Unis révèle cette position de dépendance. Puisque le gouvernement qui contrôle ces entreprises, puisque la plupart de ces entreprises ont leur siège principal aux États-Unis, deviennent vraiment à la merci d'un gouvernement, mon collègue a dit fascistoïde, quand je lui ai posé la question de comment il le décrirait, autoritaire, et surtout qui n'est pas prévisible. L'administration Trump a des décisions complètement inattendues, qui peuvent parfois se contredire d'un jour à l'autre. Donc c'est très difficile pour nous d'avoir une stabilité et de savoir anticiper l'avenir. Et évidemment, l'administration Trump peut utiliser cette dépendance que nous avons comme vecteur de représailles. Récemment, l'administration états-unienne a dit « les lois européennes de contrôle des plateformes en ligne, on les aime pas trop, ils essayent d'être un peu plus, de montrer un peu plus les dents sur du niveau compétition qui peut heurter notre Silicon Valley. Qu'est-ce qu'on va faire ? Boum, des tarifs. Enfin, des taxes à l'importation. » Donc il y a aussi une manière d'utiliser notre dépendance contre nous, évidemment. Techniquement, c'est possible. Techniquement, demain, Trump peut dire « on va ralentir Zoom pour tous les Européens. On va couper Outlook en Europe. » C'est techniquement possible. Est-ce que c'est complètement incroyable, impensable ? Oui, c'est n'importe quoi. Est-ce que Trump fait du n'importe quoi ? Oui. Trump arrête les gens dans la rue. Trump fait arrêter une juge qui s'est opposée à un processus de déportation par le FBI. Fake news. Tout repose en fait sur la volonté de résister de ces leaders, de ces grandes entreprises technologiques. Est-ce qu'on y croit ? Bof. C'est ce que j'ai mis. Moi, j'y crois pas.
Pardon, mais je pense que même avant Trump, cette implication de l'État dans le financement, dans la création de ces entreprises, du gouvernement de Saint-Denis, était déjà là. Je dirais la vulnérabilité, elle était déjà là depuis très longtemps. On la voit un peu plus, mais
je suis d'accord.
Les entreprises sont l'argent des...
C'est une révélation.
C'est ça.
On est d'accord. On est complètement d'accord. Elle était là. Là, elle est mise en... Un spotlight dessus, quoi.
Même le rôle de la défense, des armées, etc., l'argent de militaire, en fait, dans ces entreprises.
Complètement. On va y venir d'ailleurs dans quelques instants. C'est pas abstrait ce que je dis. Ça s'est passé. Donc, Trump n'était pas content avec la Cour internationale pénale, notamment son travail dans le cadre du génocide à Gaza mené par l'État israélien. Et donc, du coup, il a demandé à bloquer, du coup, comment on dit en français ? Financial assets. Pardon. Les fonds financiers du procureur de la Cour internationale pénale en Grande-Bretagne. Ça, c'est fait. Et Microsoft a annulé le compte Outlook du procureur. J'ai mis une petite citation en anglais, mais en gros, ça, le CAN, donc c'est le procureur, a vu son compte Outlook annulé, supprimé. Il a été obligé de se recréer une adresse chez un fournisseur suisse qui s'appelle ProtonMail, qui est cool. Donc c'est pas abstrait ce que je dis. Il faut qu'on arrête de contribuer aussi à la domination de ces oligopolistes voyous. J'ai l'impression d'être le PTB quand je dis ça, mais vraiment, investir son argent dans les GAFAM, c'est contribuer à un modèle délétère au niveau sociétal, institutionnellement, organisationnellement, pour notre société. On l'a dit, il se repose sur une exploitation en masse de données personnelles, ce qui contribue à créer ce régime de surveillance généralisée en ligne. Ça, c'est fait. C'est les entreprises qui évitent très très bien l'impôt. Pas cool. Ils reposent sur l'exploitation évidemment du travail sous-payé, du travail précaire, de la sous-traitance, notamment dans les pays du coup asiatiques, comme vous le savez bien. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais il y a des scandales qui ont éclaté sur les salaires ridiculement bas de tous ces travailleurs et toutes ces travailleuses dans les usines chinoises, notamment d'Apple. C'est des complices des pouvoirs dictatoriaux et autoritaires. Donc ils s'entendent très très bien avec les pouvoirs et ils font des aménagements nécessaires lorsqu'ils ont affaire à des régimes autoritaires. Et ils ont sont partie prenante du génocide en cours à Gaza. Il y a eu des protestations même au sein de ces entreprises pour contrer pour demander l'arrêt de leur participation et de leur complicité dans le génocide à Gaza. Donc les employés ont fait des manifestations, mais les projets sont toujours en cours. Donc c'est des projets de fournir un cloud pour l'armée israélienne, par exemple. Le développement d'outils d'intelligence artificielle pour pouvoir cibler des attaques aériennes contre certaines cibles. Mais ça a été évidemment prouvé que les cibles sont la plupart du temps n'importe qui. C'est très mal fait. Donc voilà. Est-ce qu'on a envie d'investir dans ce genre d'entreprise? Non. Brièvement sur les impacts environnementaux, je pense que j'enfonce des portes ouvertes, vous le savez. Évidemment que ce modèle commercial d'exploitation et d'extraction majeure des données personnelles, ça coûte en énergie. Ça produit des émissions, mais les émissions, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, hein, les émissions CO2. On ne pense pas suffisamment aussi à la demande en électricité. En 2022, c'était 2%. Et après, j'ai regardé les chiffres, estimation à 2026, ça va tripler. Donc, ça, ils ne demandent tout le temps plus d'énergie. Il ne faut pas se fier aux campagnes de greenwashing de ces GAFAM. Souvent, ils disent, on essaye de faire un net, on essaye d'investir dans des projets pour compenser nos émissions, pour revenir à un zéro. Le Guardian a mené une enquête et il s'avère que les émissions réelles sont à peu près 662% supérieures au niveau déclaré par ces GAFAM. L'extraction des minerais, de plus en plus, vu qu'ils sont dans une course en avant et une croissance démentielle de leurs activités, il y a une demande exponentielle d'extraction de minerais fondamentaux, donc lithium, cobalt principalement. Qu'est-ce que ça signifie pour les pays qui sont touchés et les populations locales? Une dépossession de leurs terres et de la pollution locale qui est évidemment pas prise en considération dans l'équation au niveau des émissions. Ça, c'est jamais pris en considération. C'est complètement invisibilisé les impacts sur les populations locales. Sans parler évidemment du travail forcé, tatata, ça vous savez. Et dernièrement, petit point qui des fois est pas toujours connu. Les GAFAM investissent énormément dans le machine learning, donc l'apprentissage machine et l'IA, pour aider les entreprises des énergies fossiles à extraire davantage d'énergie fossile. Donc c'est un peu le cercle vertueux entre eux. Je ne sais pas si c'est visible, c'est une comparaison de la consommation d'électricité tech giants versus certains pays. Le premier, c'est l'Irlande, en tout en haut. Après c'est la Serbie, puis c'est Samsung. Après vous avez l'Équateur, la Slovaquie, oh, Google. Donc en fait ces GAFAM utilisent la même quantité d'énergie que certains pays tout entiers. Bon, je trouvais que c'était parlant parce que bon, des chiffres comme ça, ça donne pas toujours. Facebook est juste après la Croatie, Apple est juste après la Chypre. Mais que fait l'Europe? Que fait l'Europe? Une très maigre contribution à essayer d'apporter des solutions vraiment impactantes, réelles, concrètes à cette situation d'oligopole et de domination de quelques acteurs privés sur le marché. Toute la législation qu'elle a mise en place ne fera pas disparaître les géants du numérique. On n'a pas les outils pour actuellement dans la législation européenne. Il y a eu une tentative lors du mandat européen précédent, qui a été adopté du coup en 2022, qui s'appelle le Digital Markets Act, et qui voulait répondre un petit peu à cette situation de domination sur les marchés. problèmes, beaucoup de lobbying, pas assez de campagne de la part de nous autres, je veux dire, des acteurs qui œuvrent en faveur de l'intérêt public. C'est un instrument pour réguler la compétition sur le marché du numérique qui se focus principalement sur des mesures correctives, comportementales. Changer un petit peu vos conditions d'utilisation. Est-ce que vous pouvez ouvrir un petit peu cette partie-là de vos services pour que ça soit interopérable et que ça marche avec peut-être un autre outil concurrent? Mais c'est vraiment à la marge. Ça va pas vraiment au cœur du modèle économique et commercial de ces entreprises. Le dernier recours, il existe quand même. Vous pouvez faire un démantèlement de l'entreprise. Mais c'est vraiment si vous avez essayé toutes les autres mesures qui existent avant. Et en plus de ça, ces entreprises ont évidemment un budget énormissime, colossal, pour pouvoir se battre en justice et devant les cours contre chaque décision de l'autorité européenne. Donc ça, c'est des années de bataille juridique avant qu'on en arrive là. On n'y croit pas trop, pour être honnête. C'est pas qu'on est pessimiste de nature, un petit peu, mais on n'y croit pas trop. Il y a quelques cas qui ont été lancés contre Google et Apple, mais ils sont toujours pas aboutis, comme je le disais, à chaque fois on a des appels en cours, donc ça marche pas vraiment beaucoup. Et c'est peu impactant, au final, ça ne change pas vraiment comment l'écosystème fonctionne. Je peux le développer après si vous voulez, si on a le temps. Qu'est-ce qui va se passer sur ce mandat? Donc il y a eu les élections en 2024, et ça va jusque les prochaines sont en 2029. En fait, il n'y a rien de prévu. On laisse comme c'est. Il y a rien. L'Union européenne ne veut pas adresser davantage ce problème éminemment présent. Pourquoi? Peur de l'administration Trump, peur des représailles diplomatiques, économiques, tout ce que vous voulez. Et on a un petit peu à la mode et un peu à la dérégulation. En ce moment, il y a vraiment une tendance au niveau des institutions européennes à on a déjà adopté trop de lois dans ce secteur dans le mandat précédent. On va peut-être revenir un petit peu sur ce qu'on a dit parce que on est en train d'empêcher l'innovation. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans la bonne direction, j'ai envie de dire. Histoire de bien enfoncer le clou, de bien déprimer tout le monde, je finis avec ma slide. On a eu des coupes budgétaires pour le développement du FOSS. Donc FOSS, c'est Free and Open Software, donc les logiciels libres et open source, donc ouverts, dans le programme Horizon Europe. Donc ce que la Commission européenne prévoyait comme budget pour financer des initiatives en faveur du logiciel libre et ouvert, elle les a retirées. Ça craint. Parce qu'il y avait plein d'initiatives super chouettes en Europe qui dépendaient de ces fonds européens pour pouvoir mener leurs initiatives et faire leurs programmes de recherche et de développement. Ça va pas complètement partir à la poubelle, il va rester on nous a dit, vous inquiétez pas, il va y avoir quand même un peu d'argent, il va y avoir une enveloppe, on sait pas où la mettre. Mais bon, on attend de voir. Comparé à ça, je le mets en comparaison avec les objectifs politiques de la Digital Decade, donc la décennie numérique. On voit que dalle. Même moi, j'arrive plus à lire. Mais en gros, l'Union européenne s'est donné certains objectifs en matière de numérisation de la société et des marchés économiques dans l'Union européenne à 2030, avec vraiment des objectifs, par exemple, pour les services publics à 100% en ligne. Si vous développez pas d'alternatives libres et qu'en même temps, vous devez avoir une fourniture de vos services en tant qu'administration publique en ligne, vous allez vous tourner vers qui? Vers ce qui existe, vers les GAFAM. Donc, en fait, on reproduit et on cimente la domination de ces acteurs qui sont déjà surpuissants sur le marché. Donc, ça va être très très dur pour les administrations publiques, en fait, de se tourner vers des alternatives crédibles et stables et sécures. Elles existent aujourd'hui, elles existent, vous inquiétez pas. Mais le fait qu'on retire des fonds à leur développement, ça va poser question à long terme. Je ne vais pas tout détailler, je pense je peux laisser ça pour les questions. Que faire? Je pense que ça, c'est Tactique ASBL qui va répondre. Donc c'est une belle transition pour la suite. Ce qui est important pour les acteurs du secteur non marchand, pour les acteurs du service public s'ils en ont la possibilité, c'est de choisir un modèle commercial, enfin un fournisseur dont le modèle commercial n'est pas basé sur l'extraction des données, n'est pas basé sur un monopole, ne cherche pas à devenir un monopole sur sa part de marché, et ne se repose pas sur la publicité, qui est vraiment ce qui tue l'idéal démocratique en ligne, j'ai envie de dire. Les quatre principes du libre, qu'est-ce qu'un logiciel libre si vous voulez tester un petit peu, si vous avez une offre en face de vous, est-ce qu'ils remplissent les quatre conditions pour être considérés comme libres et comme éthiques, on va dire. Vous pouvez utiliser le logiciel comme vous voulez. Vous pouvez le modifier, vous pouvez l'étudier, vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans, vous pouvez examiner le code. Même si vous n'en avez pas les capacités, c'est bien de pouvoir d'avoir cette capacité, même théorique. Et vous pouvez le donner, le copier, comme vous voulez. Ça, c'est les quatre principes du livre. Voilà. Et je crois que j'ai fini. Oui. Merci beaucoup pour vos lectures. Et oui, je prends des questions, c'est ça ?